Bonjour et bienvenue à tous. Merci aux braves qui êtes ici d'être venus malgré toutes les difficultés de circulation, etc. Enfin, moi-même, j'ai bien cru que j'allais jamais arriver. Hein, c'est bien. La semaine dernière, nous avons vu que le livre de la piété filiale, le Xiaojing, un ouvrage que j'ai qualifié d'ouvrage de propagande, vraisemblablement d'époque Han, c'est-à-dire compilé à un moment donné entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après. Donc cet ouvrage établit un rapport d'analogie et de continuité entre, d'une part, la piété filiale, Xiao, que vous avez ici, et c'est-à-dire la piété filiale, c'est-à-dire la révérence du fils pour le père, et d'autre part, la loyauté, donc le deuxième caractère en rouge que vous avez sur la diapositive, le zhong, c'est-à-dire donc la révérence du sujet ou du ministre pour son prince. Donc, en vertu de cette analogie, le prince est à ses sujets ce que le père est à son fils. Autrement dit, le sujet ou le ministre sert son prince comme le fils sert son père, et on peut donc dire que la loyauté, zhong, est la traduction politique de la piété filiale. Ou, si l'on préfère, la loyauté serait l'extension du sentiment filial du père. Il y a cette extension, cette translation du sentiment filial du père vers le prince. Donc, en somme, on a ici une manière de fonder l'ordre politique dans un ordre des choses prétendument naturel, ou plus précisément dans un rapport organique qui est donc ce lien du sang ou ce lien de parenté qu'est la filiation. Alors, comme nous l'avons vu, ce processus d'extension se fait dans un continuum, mais il passe par différentes étapes qui sont en rapport d'homologie, c'est-à-dire que toutes les étapes sont sur un modèle analogue, mais à des échelles différentes. Et nous avons vu dans plusieurs sources textuelles de la fin de l'Antiquité et du début de l'ère impériale, donc nous sommes ici dans une période entre le IVe et le IIe siècle avant l'ère chrétienne, donc nous avons vu dans une diversité de sources textuelles la récurrence de trois étapes ou trois niveaux. D'abord, donc, le tianxia, c'est-à-dire littéralement ce qui est sous le ciel. Ensuite, le guo, c'est-à-dire le pays. Et enfin, en troisième lieu, tia, la famille. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, la différence d'échelle entre ces trois niveaux n'est pas dictée par des considérations purement spatiales ou géographiques. Elle est en fait d'abord dictée par des contraintes ritualistes. Et ceci apparaît de manière très claire dans ce passage du traité des rites qui concerne le devoir de vengeance d'un fils filial, d'un fils pieux, dont le père ou la mère a été assassiné. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, même à son pire ennemi, mais enfin, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Donc, votre père ou votre mère a été assassiné, et donc en tant que fils pieux, au nom donc de la piété filiale, vous avez le devoir de venger votre parent défunt en cherchant donc à tuer à son tour donc le meurtrier de votre parent. Donc, dans ce passage du traité des rites, le Li Ji, toujours, au chapitre Tangong, dans la première partie du chapitre, à la section 53, vous avez donc ce dialogue fictif entre un disciple et Confucius. Donc, Zi Xia, Wen Yu Kong Zi Yue, Ju Fu Mu Zhe Chou, Ru Zhe He. Donc ce disciple Zixia demande à Maître Kong, c'est-à-dire Confucius, comment un fils doit-il se comporter vis-à-vis donc du meurtrier de son fou père ou de sa mère. Et la réponse du maître de Confucius, Fu Ziyue, Qin Shan Zhen Gan. 不是，夫与共天下也。欲助世朝，不反兵而斗。 Donc le maître répond ceci. Donc le fils doit qinshan, c'est-à-dire dormir littéralement sur la paille, hein, dormir sur une natte de paille, donc pour indiquer en fait une sorte de, comment dire, de couchage très provisoire, hein, donc il doit dormir sur la paille, et Zheng Gan, c'est-à-dire prendre son bouclier comme oreiller. Autrement dit, en fait, il est toujours prêt à la vengeance. Bushi, donc il ne doit pas assumer de charge, hein, c'est-à-dire occuper de poste, hein, pour rester totalement disponible, justement. Et là, la phrase qui nous intéresse ici, c'est Fu Yu Gong Tian Xia Ye, c'est-à-dire donc il ne doit pas littéralement partager avec le meurtrier le même monde sous le ciel, hein, c'est-à-dire donc il ne doit pas en fait laisser s'installer la situation où donc le fils qui a perdu son parent, son père ou sa mère, et le meurtrier donc de son père ou de sa mère, il ne doit pas laisser justement cette situation où les deux hommes en fait sont dans le même monde. Hein, autrement dit, il doit y en avoir un qui doit quitter le monde. Et Yuzhu Shi Chao, c'est-à-dire donc si le fils rencontre le meurtrier au marché ou à la cour, donc ce sont deux endroits où en principe on n'est pas armé, pour Fanping Alto, c'est-à-dire il ne doit pas avoir à retourner chercher son arme, mais doit pouvoir donc To, c'est-à-dire provoquer le meurtrier au combat sur le champ. Donc là, en fait, quand il s'agit du meurtre du père ou de la mère, le devoir de vengeance est absolu, immédiat et permanent tant que la vengeance n'est pas tirée. Deuxième question, donc toujours du disciple, Yue, Qingwen, Du Quendi Zhi Chou, Ru Zhi He. Donc, quel comportement adopter vis-à-vis du meurtrier de son frère aîné ou cadet. Donc là, la question porte non plus sur le meurtre du père ou de la mère, mais sur le meurtre d'un frère. Réponse, Yue, Shi, Fu Yu Gong Guo, Xian Jun Ming Er Shi, Sui Yu Zhi Bu Dou. Donc la réponse est que celui qui a perdu son frère peut assumer une charge, mais pas dans le même pays que le meurtrier. Et si cet homme-là, donc, qui a perdu son frère, s'il est envoyé sous-entendu dans le pays du meurtrier et porteur d'une mission de son prince, même s'il y rencontre le meurtrier, il ne doit pas le tôt le provoquer au combat. Autrement dit, tant que le meurtrier du frère est dans un autre pays, il n'y a pas obligation de vengeance. Donc, en clair, en fait, si le meurtrier ne vit pas dans le même pays que vous, en quelque sorte, vous pouvez le laisser vivre. Troisième question, toujours, il s'agit toujours d'une question du disciple. Qingwen, tu chongfu kunti zhe chou ru zhe he. Donc, quel comportement adopter vis-à-vis du meurtrier d'un oncle ou d'un cousin paternel? Donc là, en fait, on s'éloigne dans la parenté. Réponse, yue, bu wei kui, zhu ren neng, zhe zhi bing, er pei qi hou. Donc, la réponse, c'est que celui qui a perdu ce cousin ou cet oncle un peu lointain ne doit pas créer, c'est-à-dire être le chef, prendre la tête ou l'initiative de la vengeance. Zhuren, c'est-à-dire si le principal concerné, c'est-à-dire donc le fils de l'oncle ou du cousin assassiné en question, donc si le principal concerné est en mesure de le faire, donc cet homme se contente de Zhibing de prendre son arme et de le suivre derrière, Pei Qihou, c'est-à-dire de le suivre derrière, c'est-à-dire en second. Il ne fait que seconder donc le principal concerné, mais il ne prend pas lui-même l'initiative. Donc ici, dans ce texte, ce qui est tout à fait frappant, c'est que les trois niveaux, c'est-à-dire Tianxia, donc le monde sous le ciel, Guo, le pays, et Jia, la famille, sont déterminés par le degré du lien de parenté entre un homme et son parent assassiné. Donc si je récapitule, si c'est donc le père ou la mère, ils ne partagent pas le même ciel. Autrement dit, il n'a de cesse qu'il ne venge la mort de son père ou de sa mère en recherchant et en tuant le meurtrier. Si c'est le frère, donc il peut laisser le meurtrier vivre, mais dans un autre, à condition que ce soit dans un autre pays. Et si c'est un simple cousin, alors à ce moment-là, ça devient, si j'ose dire, une simple affaire de famille, et c'est donc au fils du cousin de prendre l'initiative de la vengeance. Donc, nous avons ici une pratique de ce qu'on appellerait ailleurs la vendetta, sous une forme ritualisée à l'extrême. Alors, quand je vous disais que le ritualisme n'exclut pas nécessairement la violence, et les effusions de sang, là nous avons un bon exemple. Donc les traités rituels s'accordent pour dire que la vengeance est une obligation morale liée à la piété filiale et que le degré d'obligation de vengeance est directement proportionnel au degré de parenté, donc entre la victime du meurtre et son vengeur. Et donc, nous avons ici une relation qui est conçue exactement sur le modèle des rites de funérailles et de deuil sur lesquels nous nous sommes arrêtés. Et ces rites de funérailles et de deuil, de manière tout à fait significative, doivent être maintenus jusqu'à ce que la vengeance soit tirée, c'est-à-dire jusqu'à ce que le meurtrier du parent soit puni. Donc, en cela, la vengeance est étroitement associée au ritualisme de deuil et donc à la pratique de la piété filiale. Et on peut dire que la vengeance se substitue ou qu'elle conditionne en fait ce ritualisme en ce qu'elle détermine elle aussi les degrés de proximité dans la parenté. Alors, ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est que selon certaines sources, ce devoir de vengeance doit se maintenir au besoin sur plusieurs générations. C'est-à-dire que si le fils filial n'arrive pas à mettre la main sur le meurtrier de son père ou de sa mère, pour une raison quelconque, à ce moment-là, ce sont les générations suivantes qui doivent s'en charger. Il y a même une source qui dit que ce devoir de vengeance doit au besoin se maintenir sur 9, voire sur 100 générations. Alors, en d'autres termes, la vendetta peut durer éternellement, hein, parce que, en plus justement de ce devoir qui se perpétue sur les générations suivantes, vous entrez aussi dans un cercle vicieux, bien connu, hein, celui de la vendetta, c'est-à-dire que une fois que vous avez réussi à venger votre père en tuant son meurtrier, donc à son tour, le fils du meurtrier a le devoir de venger son propre père assassiné, et ainsi de suite. Alors, ça pose évidemment un problème de compatibilité avec l'ordre social et l'ordre public, et donc il y a ce conflit entre, d'une part, l'ordre des rites, qui assigne ce devoir de vengeance comme un devoir absolu, et de l'autre côté, l'ordre des lois, hein, parce que les lois, évidemment, sont là, en principe, pour maintenir l'ordre public. Et c'est ce conflit que j'ai eu l'occasion d'étudier dans un travail dont je donnerai la référence sur le site du collège. Alors, c'est pas exactement ça qui nous intéresse maintenant. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que la distinction entre plusieurs échelles, donc le tianxia, le guo et le jia, c'est-à-dire le monde, le pays et la famille, cette distinction est déterminée non pas tellement en termes de spatialité, mais de façon primordiale en termes de relations et de degré de parenté. Alors, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ces différents niveaux sont récapitulés et concaténés, c'est-à-dire enchaînés les uns aux autres, dans la citation fameuse du Mencius, du Mengzi, au livre 4, première partie du livre 4, section 5, citation que je rappelle ici en haut de la diapositive. Meng Ziyue, maître Meng dit, Mencius dit, Ren yu heng yan, jie yue, tian xia guo jia. Tian xia zhi ben zai guo, guo zhi ben zai jia, jia zhi ben zai shen. Donc, les gens ont un dicton ou une expression consacrée, donc monde, pays, famille. Maître Meng Mencius explicite donc cette formule dans ces termes: la racine du monde est dans le pays, la racine du pays est dans la famille, la racine de la famille est dans la chaîne, dans la personne, sous-entendu donc de celui qui est à la tête, hein, soit de la famille, soit du pays, soit du monde. Et c'est tout à fait intéressant de s'apercevoir que cette stratification, donc, on la retrouve aussi dans une source qui n'a rien de confucéen, à savoir donc dans ce fameux texte qui porte le titre soit de Laozi, le vieux maître, soit le titre plus connu donc en Occident, le Tao Te Ching, qu'on prononce quelquefois à la française Tao Te King, le livre canonique de la voix et de sa vertu ou de sa puissance. Et vous avez donc cette même stratification à la section, au verset 54 du Laozi. Shan jian bu ba, shan bao zhe bu tuo, zi sun yi ji si bu chuo. Donc, ce qui est construit solidement ne se laisse pas arracher. Ce qui est fermement pao, c'est-à-dire embrassé, tenu dans les bras, ne se laisse pas trop, ne se laisse pas enlever, ôter. Et la filiation des zisun, c'est-à-dire des fils et des petits-fils, c'est-à-dire grâce aux sacrifices qui sont offerts à leurs parents défunts, c'est-à-dire grâce aux sacrifices que ces fils et petits-fils offrent à leurs parents défunts, Bucho ne se laisse pas interrompre. Donc, de la même façon que quand vous plantez ou que vous construisez quelque chose de manière solide, c'est très difficile à arracher. Un arbre bien solidement planté, vous ne pouvez pas l'arracher. Ce que vous tenez solidement dans les bras, on ne peut pas l'enlever. Et de la même façon, donc, cette filiation entre générations, qui est assurée justement par les sacrifices dont nous avons parlé précédemment, cette filiation ne se laisse pas facilement interrompre. Ensuite arrive donc ce passage qui nous intéresse. Xiu zhe yu shen, qi de nai zhen. Xiu zhe yi jia, qi de nai yu. Xiu zhe yu xiang, qi de nai chang. Xiu zhe yu guo, qi de nai feng. Xiu zhe yu tian xia, qi de nai shan. Donc, celui qui la cultive, Yushen, dans sa propre personne. Alors là, c'est le zhi, le complément d'objet ici. Je pense qu'il se réfère au te qui arrive dans la deuxième partie de la phrase. Celui qui cultive sa vertu dans sa propre personne, cette vertu sera donc chen, authentique. Celui qui la cultive dans sa famille, sa vertu sera sera surabondante, en surplus. Celui qui la cultive dans son xiang, c'est-à-dire son village ou dans son voisinage, sa vertu sera chang, sera littéralement longue, elle va perdurer. Celui qui la cultive dans son pays, sa vertu sera riche. Et celui qui la cultive yu tianxia, c'est-à-dire sous le ciel, sa vertu, nai pu, se répandra partout. Et la phrase de finale, donc, ku yi shen guan shen, yi jia guan jia, yi xiang guan xiang, yi guo guan guo, yi tianxia guan tianxia. C'est ainsi que il faut donc guan regarder le soi à partir de soi, la personne à partir de la famille à partir de la famille, le village ou le voisinage à partir du village ou du voisinage, le pays à partir du pays et le monde à partir du monde. Ou Ri zhi tian xia ran zai yi ci. Et moi, comment est-ce que je sais qu'il en va ainsi du monde sous le ciel, yi ci, comme ça, ou bien de là où je suis. Ce yi ci final, vous le retrouvez à plusieurs reprises dans le Laozi et également dans le Zhuangzi. C'est cette, comment dire, cette espèce de retournement, ce fameux retournement taoïste, très 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 caractéristiquement que vous trouvez dans les sources taoïstes, c'est-à-dire tout simplement en étant là, en regardant le monde de là où je suis. Alors, dans cette source non confucéenne, vous avez donc, vous retrouvez ce même type de stratification entre la personne, la famille. Vous avez en niveau intercalaire donc le voisinage ou le village, ensuite le pays, ensuite le monde. Mais ici, au lieu d'instaurer une continuité entre ces différents niveaux, ce que préconise le Laozi, c'est de regarder chaque niveau à partir du point de vue de chaque niveau, c'est-à-dire donc, comme le dit cette phrase finale, donc de considérer la personne à partir de la personne, la famille à partir de la famille, et ainsi de suite. Alors, dans les sources confucéennes, on insiste au contraire sur justement le lien de continuité qu'il y a entre ces niveaux. Alors, l'idée que ces trois niveaux, monde, pays, famille, prennent ultimement racine dans le shen, c'est-à-dire dans la personne de celui qui est à la tête, hein, que ce soit le père ou le souverain, le prince, cette idée se retrouve, comme on l'a vu, dans le long développement qui constitue le début de ce texte canonique qu'on appelle la Grande Étude, hein, le Da Xue, ce début que nous avons lu la dernière fois. Et je remercie l'auditeur, je ne sais pas s'il est ici, mais l'auditeur qui a eu la gentillesse à la fin du cours de la semaine dernière de venir témoigner de sa familiarité avec ce début de la Grande Étude en me récitant ce début en prononciation vietnamienne. Ça vous montre que ce texte a connu une fortune considérable, non pas simplement dans le monde proprement chinois, mais aussi dans les aires culturelles voisines comme la Corée, le Japon et aussi le Vietnam, et ceci jusqu'à une date très récente apparemment, puisque cet auditeur en a été vraiment le témoin direct. Donc, cette grande étude à laquelle donc nous avons consacré un volume entier qui vient de paraître sous le titre « Lecture et usage de la grande étude », le succès de ce petit texte qui tient, je vous le rappelle, sur une double page imprimée, hein, le succès qui s'est confirmé à la fois dans l'espace, comme je viens de le dire, largement en dehors donc, du monde proprement chinois, et aussi dans le temps, puisque c'est un texte que non seulement les lettrés chinois se sont appropriés pendant des siècles, mais aussi les lettrés coréens, japonais, vietnamiens. Donc le succès de ce petit texte s'explique certes par sa concision, mais aussi paradoxalement du fait de formulations extrêmement répétitives, de ces fameuses constructions en sorites que je soulignais la dernière fois. Alors les sorites, c'est cette construction rhétorique du type si A alors B, si B alors C, si C alors D, etc. Ces sorites que vous trouvez dans la partie introductive dans l'Antiquité pour faire briller la lumière de la vertu partout sous le ciel. On commençait par ordonner son propre pays. Pour ordonner son propre pays, on commençait par ordonner, régler sa propre maison. Pour régler sa propre maison, on commençait par se perfectionner soi-même, etc., etc. Alors, une telle construction, de toute évidence, à visée mnémotechnique, c'est-à-dire pour faciliter la mémorisation, contribue donc à créer cet effet de continuité et de succession ordonnée. Et donc, on avait vu que ce début du texte de la Grande Étude décrit la voie de la Grande Étude comme une progression graduelle, par étapes, mais continue, du développement personnel du souverain qui se diffuse par cercles concentriques à l'échelle de la famille, puis à l'échelle du pays, et enfin à l'échelle du monde, sous le ciel, en établissant ainsi un rapport de continuité entre la dimension morale de la culture de soi et la dimension politique de la gouvernance du monde, une continuité qui est restée le paradigme central de ce texte. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce continuum, on a cherché à le représenter graphiquement, comme l'a montré notre collègue allemand Michael Lackner dans le volume dont je viens de parler. Et Michael Lackner, dans son article, sa contribution pour ce volume, qu'il a intitulé Mapping the Great Learning, Diagrams on the Daxue, donc mettre en carte ou en graphique la grande étude, diagramme sur le Daxue. Donc je signale d'ailleurs au passage que ce volume comprend des articles aussi bien en français qu'en anglais. Donc dans cet article en anglais, Michael Lackner reproduit donc certains diagrammes où vous retrouvez donc le début du texte de la Grande Étude, on pourrait dire désossé et étalé de manière graphique. Donc ici, vous avez le tout début qui vous dit ta xue zhe tao, c'est-à-dire donc la voie de la Grande Étude, zai ming de, c'est-à-dire réside dans le fait de faire rayonner la lumière de la vertu, zai qin min, donc dans le fait de considérer le peuple comme une famille, et zai zhi yu zhi shan, que vous trouvez ici, donc, et ne s'arrête que une fois arrivé dans le bien suprême. Et puis sur la page en vis-à-vis, vous avez détaillé donc tout le programme de la voie de la grande étude, donc déplié ici. Donc vous retrouvez ici donc le Tian Xia Ping, c'est-à-dire donc la pacification de tout ce qui est sous le ciel, Guo Zhi, c'est-à-dire la gouvernance du monde, Jia Qi, c'est-à-dire la régulation de la famille, hein, et puis ensuite vous avez ici tout ce qui concerne donc le Shen Xiu, c'est-à-dire donc la culture de soi, la cultivation de cultivation, évidemment est un barbarisme en français, mais la culture de soi peut induire en erreur, donc le fait de cultiver moralement sa propre personne. Et vous avez donc ici toutes les sections qui portent sur la culture de soi. Je n'arrive pas, voilà. Ici, donc, toutes ces sections-là portent sur justement cette dimension interne de la culture de soi. Alors là, vous avez le même type de graphique, mais en forme de pagode. On peut s'amuser comme ça vraiment à l'infini. Et ça, je peux dire que c'est vraiment le grand avantage de l'écriture chinoise, où vous avez donc ces caractères qui peuvent être, comment dire, disposés absolument dans tous les sens, que vous pouvez lire dans tous les sens, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, etc. Enfin, je veux dire, et que vous pouvez disposer vraiment de la manière la plus fantaisiste. Et dans ce même volume, vous avez une partie qui est consacrée donc à la fortune moderne et contemporaine du texte de la Grande Étude. Et vous avez donc un article que nous devons à Sébastien Biliou qui nous montre que les formules de la Grande Étude sont encore usitées aujourd'hui, hein, puisqu'on les rencontre dans certaines pratiques religieuses et même des pratiques sectaires. Alors le mot sectaire ici est employé sans aucun jugement de valeur, hein, donc dans certaines sectes religieuses que vous trouvez notamment à Taïwan et maintenant également en Chine continentale. Et Sébastien Biliou fait ceci dans sa contribution qu'il a donnée en anglais, même si Sébastien Biliou est un collègue tout à fait français, donc communication qu'il a intitulée donc Qijia, The Great Learning Ideal of Family Regulation in a Contemporary Syncretistic Religious Context, ce qui signifie donc Qijia, c'est-à-dire l'idéal de la régulation de la famille ou la mise en ordre de la famille selon la Grande Étude dans un contexte contemporain de syncrétisme religieux. Et Sébastien Biliou donc fournit la reproduction donc d'une page de cet ouvrage compilé donc pour les besoins justement de ces pratiques religieuses, un ouvrage qui s'intitule le Pai Xiao Jing, c'est-à-dire donc le livre canonique des 100 exemples de piété filiale. Vous vous rappelez peut-être que nous avions vu que dans l'histoire de la Chine impériale étaient apparus en fait ces ouvrages d'édification morale intitulés donc Hsexiao, c'est-à-dire donc les 24 exemples de piété filiale dont on trouve également des éditions illustrées. Ici, vous avez donc le Pai Xiao Jing, donc ce livre canonique des 100 exemples de piété filiale qui, et c'est ça qui nous intéresse ici, met en relation donc d'une part le Xiao Jing, c'est-à-dire le livre de la piété filiale, et d'autre part le Da Xue, donc la grande étude. Alors, vous avez ici donc l'intitulé donc de cette section de ce livre qui vous dit ceci donc Xiaozi Qijia Quanjia Le, c'est-à-dire quand le fils filial Qijia, c'est-à-dire donc quand il met en ordre sa famille, toute la famille est contente. Donc là, vous avez quelque chose de tout à fait amusant, c'est-à-dire donc la combinaison donc d'une formule qui est extraite d'un livre, d'un texte canonique, celui de la Grande Étude, cette allusion au fils filial qui met en ordre sa famille, et le Quanjiale qui est une expression tout à fait familière, courante, que vous trouvez par exemple sur les cartes de vœux ou dans les vœux de Nouvel An, hein, on vous souhaite le Quanjiale, hein, du bonheur pour toute la famille, hein, je vous rappellerai d'ailleurs aussi à cet égard que notre grande marque de grande surface, Carrefour, est présente en Chine sous le nom de Jia Le Fu, hein, c'est-à-dire donc de bonheur pour toute la famille. Je referme ma parenthèse. Je reviens donc à cette page où vous avez donc en tête du premier paragraphe. Ici, si j'arrive à retrouver ma flèche, ici, en tête du premier paragraphe, une phrase qui est tirée du Xiao Jing, donc du livre de la piété filiale. Fu Xiao, Nai Wei De Zhi Ben, Jiao Zhi So You Sheng Ye. Donc, la piété filiale, c'est donc la racine de toute vertu, et c'est de là que naît et se développe tout enseignement moral. Et en parallèle, vous avez la première phrase du deuxième paragraphe ici, qui elle est tirée donc de la grande étude. Qijia nai zhiguo ping tianxia zhiben, c'est-à-dire donc mettre en ordre sa famille ou la régulation de la famille, c'est donc la racine de la gouvernance d'un pays et de la pacification du monde entier sous le ciel. Et enfin, vous avez ces deux caractères en rouge qui apparaissent en rouge sur la page et qui sont en fait les deux caractères xiaozi, c'est-à-dire donc lu de droite à gauche, donc qui signifie donc le fils filial. Et qui ces deux caractères sont tracés ici par la technique dite de l'écriture des esprits. Le kraisha, c'est-à-dire c'est une forme d'écriture automatique que vous voyez ici en photo. Vous trouvez la photo dans l'article de Sébastien Biliou qui figure dans notre volume sur la grande étude, et vous voyez ici donc des jeunes filles pratiquer donc cette écriture des esprits, et c'est comme ça donc que ces deux caractères en rouge que vous venez de voir ont été tracés. Donc vous voyez comment ces formules canoniques sont maintenant réappropriées et encore, comment dire, tout à fait usitées de manière vivante dans ces pratiques religieuses tout à fait contemporaines. Alors maintenant, je reviens donc à mon propos central, c'est-à-dire donc cette idée d'un continuum. Qui est rendu par le fait que la famille est perçue comme une extension de l'individu et le pays comme une extension de la famille, hein, puisque le prince est à ses sujets ce que le père est à ses fils. Il n'y a donc pas de solution de continuité entre éthique et théorie politique. Et on peut considérer que la théorie politique n'est qu'un élargissement de l'éthique à la dimension collective, à la dimension communautaire. Et on peut dire ainsi que le pouvoir et l'autorité du prince, donc en chinois tun, est converti en ascendant moral de l'homme exemplaire ou de l'homme de bien dans la terminologie confucéenne, c'est-à-dire le junzi. Donc vous avez même dans la terminologie une forme de continuité. L'idéal moral selon l'enseignement confucéen, c'est littéralement le fils du prince, c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve de noblesse morale. Et au fond, l'idéal serait une sorte d'identification de l'homme de bien avec le prince, d'où justement cette communauté de termes. Et de la même façon, donc, la notion clé du gouvernement confucéen ne refuse de se présenter comme la notion de pouvoir, hein, mais voudrait justement se présenter comme la notion d'harmonie rituelle. Alors, bien entendu, nous sommes dans une représentation idéale, voire idéaliste, qui, je pense, n'a jamais trouvé d'illustration dans la réalité historique. Mais nous sommes ici vraiment dans cette utopie confucéenne, selon laquelle donc le charisme personnel du tun, du prince, possède donc une sorte d'efficace du sacré par sa capacité naturelle et invisible d'harmonisation des rapports humains. Et donc, dans la vision confucéenne, le prince possède une puissance civilisatrice et transformatrice qui oblige sans contraindre, par opposition donc à l'usage de la force ou de la coercition qui serait normalement en fait le propre du prince. Donc vous avez ici une opposition entre ces deux formes d'exercice d'une sorte de pouvoir. Donc vous avez le pouvoir brutal en quelque sorte de la l'imposition de la force, qui est constamment dans la tradition de la pensée politique confucéenne, donc qui est constamment opposée donc à cette autre forme de puissance morale charismatique du prince, qui n'est pas là pour opprimer ou pour forcer, mais pour transformer, dans le sens d'une harmonisation. Donc le prince est là en fait pour éduquer ses sujets, et donc au fond l'harmonie ou l'obtention du vivre ensemble sans en arriver à s'entretuer, c'est censé donc être assuré par l'imitation du modèle qui est donné en principe par le prince, plutôt que par une conformité à des normes ou à des principes posés a priori. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que même le régime communiste qui est jusqu'à nouvel ordre encore en vigueur en Chine populaire se targue de privilégier donc la rééducation par rapport à la répression pure et simple. Alors évidemment, ça ne nous rassure pas tellement quand on sait que la rééducation se passe dans des camps de sinistre réputation, donc à tel point qu'on se demande si on ne préfère pas la répression. Mais enfin, bon, toujours est-il que dans le discours officiel, donc, il y a cette mise en avant, donc dans un régime qui en principe n'a rien de confucéen, donc ce principe de rééducation. Alors, ce principe d'éducation ou de rééducation, vous le voyez apparaître dans cette fameuse citation des entretiens de Confucius au livre 12, à la section 17, que nous avons déjà rencontré, que je vous relis ici. Donc, Ji Kangzi wen zheng yu Kongzi. Donc, Ji Kangzi, c'est un... un homme fort qui est en position de force au pays de Lu, c'est-à-dire le pays natal de Confucius, donc une forme d'usurpateur en quelque sorte, et qui vient demander conseil sur l'art de gouverner, hein, Zheng, à Maître Kong. Et Kong Zi Tui Yue, donc Maître Kong Confucius, de répondre Zheng Zhe, Zheng Ye. Donc ici, gouverner, c'est tout simplement remettre droit. Et là, même sans lire le chinois, vous verrez donc que ce terme traduit par gouverner comprend comme composante principale cet autre terme qui se prononce de la même façon en chinois moderne et qui veut dire droit. Qui veut dire, qui indique la rectitude. Donc, autrement dit, pour gouverner, il n'y a pas de recette, hein, ou il n'y a pas de technique. C'est juste une, il s'agit juste en fait de donner l'exemple par sa propre rectitude. Et ce qui est confirmé par le reste de la phrase, donc, zi shui yi zheng, shu gan bu zheng. Donc, si vous, en tant que prince, vous menez le peuple par la rectitude, qui osera donc justement se comporter de façon non droite, qui osera donc se comporter en fait en dehors de la rectitude? Alors, c'est donc ici l'action ou le comportement personnel, au fond, du prince, hein, de ce Tun qui doit se confondre avec le Tun, l'homme de bien, qui, enclenche en quelque sorte le processus de l'exemplarité, c'est-à-dire l'extension du modèle par imitation. Et c'est donc cette exemplarité qui procède du centre et qui se répand par contagion de proche en proche par cercle concentrique de plus en plus large. Et cette extension peut arriver donc à l'échelle même du pays, voire de l'humanité entière. Alors, cette image de l'influence morale du souverain qui se développe et se répand en cercle ou en onde concentrique, de plus en plus large à mesure que le souverain lui-même grandit en tant qu'être moral. Donc, cette image met en scène la fiction d'une continuité, comme je l'ai dit, entre la culture morale du prince ou de l'élite, hein, c'est-à-dire donc ce que vous avez ici, le Xiōshen, hein, la culture de soi, hein, ou ce qu'on a appelé autrement le Neisheng, c'est-à-dire la sagesse intérieure. Hein, donc cette culture de soi, hein, est mise en parallèle et mise en continuité avec donc le zhiguo, c'est-à-dire la gouvernance ou le contrôle politique du corps social, qu'on appelle également le waiwang, c'est-à-dire la royauté extérieure. Donc vous avez ici une façon, on pourrait dire là aussi assez graphique, de mettre en relation donc l'intérieur et l'extérieur, hein, c'est-à-dire l'intérieur, c'est-à-dire cette culture morale de soi, et l'extérieur, c'est-à-dire donc cette diffusion de cette même éthique, de cette culture morale, vers l'extérieur, c'est-à-dire donc à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde. Et c'est précisément donc ce passage de manière continue qui est donc mise en scène au début de la grande étude. Alors, c'est tout à fait frappant de voir que cet idéalisme confucéen, cette utopie confucéenne, qui revient comme un leitmotiv dans le ritualisme antique, se trouve encore exaltée aujourd'hui, notamment par celui qu'on pourrait considérer comme le prophète moderne de la foi confucéenne, un universitaire dont j'ai déjà cité le nom, qui est d'origine chinoise, mais qui a fait toute sa carrière donc aux États-Unis et qui maintenant est devenu un conseiller du prince en Chine, puisque il a son propre centre installé sur le campus de l'université de Pékin. J'ai nommé donc Tu Weiming. Tu Weiming, qui a consacré donc un ouvrage à l'autre grande source canonique, à savoir le Zhongyong, ce qu'on traduit conventionnellement par le milieu invariable, et ce qu'il a choisi, lui, de traduire en anglais par centrality and commonality. Donc il prend le parti de considérer Zhong et Yong comme deux notions distinctes. Donc Zhong, la centralité, et Yong, la communalité. Alors cet ouvrage, il l'a intitulé An Essay on Confucian Religiousness, c'est-à-dire donc un essai sur la religiosité confucéenne. C'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de l'Université d'État de New York en 1989. Vous retrouverez là aussi donc les références exactes sur le site. Alors, je cite Tu Weiming dans cet ouvrage. Donc, just as the self must overcome egoism to become authentically human, the family must overcome nepotism to become authentically human. By analogy, the community must overcome parochialism, the state must overcome ethnocentrism, and the world must overcome anthropocentrism to become authentically human. In light of Confucian-inclusive humanism, the transformed self, personally and communally, transcends egoism, nepotism, parochialism, ethnocentrism, and anthropocentrism to form one body with heaven, earth, and the myriad things. Alors, je traduis. Alors, tout comme le soi doit surmonter l'égoïsme pour devenir authentiquement humain, la famille doit surmonter le népotisme pour devenir authentiquement humaine. Par analogie, la communauté doit surmonter le parochialism, je ne sais pas très bien comment traduire ça, l'esprit de clocher peut-être, le pays ou l'État doit surmonter l'ethnocentrisme et le monde doit surmonter l'anthropocentrisme pour devenir authentiquement humain. À la lumière de l'humanisme inclusif confucéen, le soi transformé transcende au plan personnel comme au plan communautaire l'égoïsme, le népotisme, le parochialism, l'esprit de clocher, l'ethnocentrisme et l'anthropocentrisme pour ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les 10 000 êtres. Alors, cette dernière phrase, ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les 10 000 êtres, alors bien sûr, je me dispenserai de tout commentaire sur ce magnifique idéalisme qui est exprimé encore aujourd'hui par un universitaire sino-américain. Donc, cette dernière formule est une allusion, et je terminerai là-dessus aujourd'hui, donc, à la formule du grand penseur d'époque Ming, dont j'ai déjà cité le nom, qui a vécu entre 1472 et 1529, Wang Yangming, dans précisément un ouvrage qu'il consacre à la grande étude, hein, dans le Ta Xue Wen, c'est-à-dire question sur la grande étude. Et là, vous trouvez cette fameuse phrase « Ta ren zhe, yi tian di wan wu, wei yi ti zhe ye, qi shi, tian xia you yi jia, zhong guo, you yi ren yan. » Donc, le grand homme est celui qui conçoit, et là, vous retrouvez donc la citation de Tu Weiming, conçoit le ciel, terre et les 10 000 êtres comme un seul corps. Ou on pourrait comprendre aussi cette phrase comme faisant un seul corps avec lui, avec le grand homme. Il considère le monde comme une seule famille et Zhongguo, c'est-à-dire donc les pays du milieu ou le pays du milieu, comme un seul homme. Et cette phrase de Wang Yangming fait elle-même référence à un passage du traité des rites, le Li Ji, au chapitre Li Yun, donc l'évolution des rites, que vous avez ici sur la diapositive. Gu Sheng Ren, Nai Yi Tian Xia Wei Yi Jia, Yi Zhong Guo Wei Yi Ren Zhe. C'est-à-dire, ainsi donc, le sage peut envisager de considérer le monde comme une seule famille et Zhong Guo, c'est-à-dire les pays du milieu, les pays centraux, comme un seul homme. Donc, dans toute cette concaténation de citations, vous avez donc cette notion de tianxia, donc tout ce qui est sous le ciel, qui se trouve mis en relation avec zhongguo, c'est-à-dire donc le pays du milieu ou les pays centraux. Autrement dit, une mise en relation entre l'universalité à la chinoise et la centralité. Et ça, c'est donc une grande question que nous allons aborder la prochaine fois. Et en attendant, vous avez le singe donc, qui approche à grand bond. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, donc, nous passons de l'année de la chèvre à l'année du singe, donc dans la nuit de dimanche prochain à lundi. Donc vous êtes censé faire la fête dimanche soir. Donc évitez les restaurants chinois parce que là, je pense que vous n'avez aucune chance de trouver une place. Mais à défaut, regardez ce merveilleux dessin animé qui date des années 1960, qui est dû au studio de Shanghai et à ce monsieur de génie qui s'appelle Wan Liming, et qui vous montre que dans les années 1960, c'est-à-dire avant la révolution culturelle, on pouvait encore être assez subversif. Ici, vous avez donc le fameux singe Sun Wukong, donc ce singe tiré donc du Xiaoji, hein, du singe pèlerin, qui met la pagaille donc dans le palais céleste, Da Nao Tian Gong, c'est le titre de ce dessin animé que en principe vous trouvez également sur internet, vraiment réjouissez-vous donc avec l'arrivée du singe. Merci et à la semaine prochaine. À la nouvelle année.